On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Deux comètes vertes en vedette. Un texte de Caroline Bouffard paru le 20 octobre 2025 dans les as de l'info. Prépare tes jumelles, programme ton alarme et sois prêt à être ébloui. Ces jours-ci, pas une, mais deux comètes sont visibles dans le ciel au Canada. Ces boules de glace viennent de très loin et renferment peut-être des secrets pour expliquer la vie sur Terre. C'est une des choses que j'ai apprises en parlant avec l'astrophysicien Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal. Je te résume notre conversation. Olivier, présente-nous les deux comètes qui nous visitent actuellement. Elles s'appellent Lemon et Swan. Elles voyagent à plus de 160 000 km à l'heure. Lemon passera à 89 millions de kilomètres de la Terre le 21 octobre. Swan, elle, sera à 40 millions de kilomètres de la Terre le 20 octobre. C'est quoi au juste une comète? C'est une boule de glace sale avec de la roche. En se rapprochant du Soleil, cette glace fond. Ça forme du gaz. C'est ce qui forme la traînée lumineuse qu'on appelle la queue. Sa couleur dépend des éléments qui composent la comète. Le vert de Lemon et Swan est causé par du carbone. Elles arrivent d'où? Presque toutes les comètes viennent de très très loin dans notre système solaire. Du nuage, de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Ce sont des zones qui se trouvent au-delà de Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil. On pourra voir Lemon et Swan sans équipement spécial? Oui, mais 1. Il faut être capable de voir l'horizon. 2. Le ciel doit être sans nuages. 3. Il doit faire noir. Cela veut dire qu'il faut être à l'extérieur des villes où il y a trop de pollution lumineuse. La comète Lemon. Visible à l'œil nu. Moment idéal, juste avant le lever du soleil le 21 octobre. Ou regardez à l'horizon, vers le lever du soleil à l'est. La comète Swan. Visible avec des jumelles ou un petit télescope. Swan est moins brillante que Lemon. Moment idéal, juste après le coucher du soleil, le 20 octobre. Ou regardez au sud, soit à gauche de l'endroit où le soleil s'est couché. Quand les Lemon et Swan repasseront-elles près de la Terre? Les comètes voyagent en orbite dans notre système solaire. Elles font toujours le même chemin, un peu comme la Terre qui tourne autour du soleil. On reverra les Lemon dans plus de 1100 ans, et Swan dans 670 ans. Pourquoi les comètes sont-elles fascinantes? Les comètes se sont formées en même temps que notre système solaire. Cela veut dire qu'elles contiennent probablement des indices qui permettraient de comprendre ce qui a apporté la vie sur notre planète. C'est pour ça qu'on les étudie. On a même déjà réussi à faire atterrir une sonde sur une comète pour prendre des échantillons. On a retrouvé des éléments chimiques essentiels à la vie. Essaieras-tu d'observer ces comètes? Si tu le fais, reviens ici nous raconter ce que tu as vu. Scandale au championnat du monde de ricochet. Un texte de Camille Lopez, paru en octobre 2025 dans les As de l'Info. En Écosse, il existe une petite île habitée par 60 personnes et des millions de pierres rondes et plates. Easdale. Easdale est l'endroit parfait pour organiser ce concours. Il s'agit d'une ancienne mine d'ardoise, un type de pierre, à ciel ouvert, qui a été abandonnée en 1881 après un énorme orage. L'une des mines, en forme de bol géant, a été inondée. Ça a formé un genre de lac, entouré de millions de pierres d'ardoise parfaites pour le ricochet. Une fois par an, cette île organise un concours inusité. Les championnats du monde de ricochet. Mais cette année, il y avait anguille sous roche. Des participants ont essayé de tricher. Je te raconte cette drôle d'histoire. C'est quoi un ricochet? C'est un jeu qui se joue sur le bord de l'eau avec une pierre ronde et plate comme un biscuit. Le joueur lance son caillou pour qu'il rebondisse le plus de fois possible sur la surface de l'eau. Une grande compétition. Le 6 septembre dernier, 2200 personnes provenant de 27 pays différents se sont rendues sur l'île de Easdale pour participer au championnat du monde de ricochet. Mais avant que les poignets puissent se faire aller et que les pierres puissent sauter, les concurrents devaient accepter les règles. 1. Chaque joueur a droit à 3 essais. 2. Les roches doivent provenir de l'île. 3. Les roches doivent être mesurées par les juges. Des roches louches. Pendant la compétition, des bénévoles ont observé que certaines des roches choisies par plusieurs joueurs étaient un peu suspectes. Elles étaient trop rondes et trop lisses. Alors, il y a eu une petite enquête. Verdict : elles avaient été trafiquées par des participants. Les tricheurs ont fini par admettre leur plan et ont été disqualifiés. Le règlement est clair. La roche doit être choisie par terre à Easdale. L'intégrité des championnats est de la plus haute importance. Nous n'hésitons pas à agir quand elle est menacée, ont écrit les organisateurs sur les réseaux sociaux. Toute une histoire. Et le gagnant est l'Américain Jonathan Jennings. Ses ricochets ont parcouru une distance totale de 177 mètres. Impressionnant. Et toi, que penses-tu des gens qui choisissent de tricher? Qui a volé les trésors du Louvre? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 25 octobre 2025 dans les As de l'Info. 4 silhouettes grimpent sur un balcon du musée du Louvre à Paris. Sans doute des ouvriers. Mais que se passe-t-il? Les voilà qu'ils sautent sur des scooters et s'enfuient. Puis l'alarme retentit. « Au voleur, on a volé les joyaux de la couronne! » Non, cette scène n'est pas tirée d'un film d'aventure. Ça s'est réellement passé. Dimanche matin, des voleurs masqués ont pénétré dans le Louvre et ont dérobé des couronnes et des bijoux qui ont appartenu à d'anciennes reines de France. Un véritable trésor volé en plein jour dans le plus grand musée au monde, et le tout n'a pris que 7 minutes. Les objets volés ont appartenu aux dernières reines de France. Ce sont des bijoux d'une immense valeur, couverts de pierres précieuses. Ce sont aussi des symboles uniques qui appartiennent à l'histoire du pays. Ce qu'on sait du vol. Vers 9h30, les 4 suspects se sont servis d'un camion muni d'une échelle pour accéder au 2e étage du musée. Une fois sur le balcon, Les voleurs ont scié une vitre et ouvert une porte. Deux d'entre eux sont entrés dans le musée, dans la salle où sont exposés les précieux bijoux. Ils ont coupé les vitres protégeant les bijoux. En quelques minutes, ils ont réussi à voler 8 pièces uniques. Ils sont ensuite ressortis, ont descendu l'échelle avec leurs deux complices et ont pris la fuite sur des scooters. Mais oups! Ils ont échappé un petit quelque chose dans la rue, près du musée. La couronne volée a été retrouvée dans la rue. Elle a été un peu endommagée par la chute. Elle a appartenu à l'impératrice Eugénie. Elle est ornée de 1354 diamants et de 56 émeraudes. La France aux trousses de malfaiteurs. Ce vol spectaculaire a fait le tour de la planète et a ébranlé la France. Dimanche, le président français Emmanuel Macron a fait cette promesse. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Les experts croient que ce sont des voleurs expérimentés qui ont fait le coup. Peut-être même qu'ils ont été embauchés par des collectionneurs. La police doit faire vite. Ces bijoux uniques pourraient être découpés et vendus pierre par pierre. Ce vol soulève aussi beaucoup de questions sur la sécurité d'un musée si important. Est-ce que le système d'alarme a bien fonctionné? Comment se fait-il que les voleurs aient pu garer leur camion contre le Louvre sans problème? Beaucoup de travail attend la soixantaine d'inspecteurs qui ont reçu la mission d'élucider cette affaire. À Montréal, des voleurs courent toujours. Le Louvre n'est pas le premier musée à se faire cambrioler. Ça s'est même déjà produit au Canada. En 1972, trois voleurs se sont introduits par un puits de lumière au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ils ont emporté 18 toiles d'une valeur totale de 2 millions de dollars. Les cambrioleurs et les œuvres n'ont jamais été retrouvés. Toi, comment t'y prendrais-tu pour protéger un trésor ou des bijoux très précieux? Pour ou contre les costumes violents à l'Halloween? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 20 octobre 2025 dans les As de l'Info. Pour ou contre les costumes violents à l'Halloween? Les feuilles tombent, des citrouilles décorées apparaissent devant les maisons. Ça sent l'Halloween. As-tu déjà choisi ton costume? Peut-être as-tu abandonné ton projet de te déguiser en poupée tueuse parce que ton école interdit les costumes avec du faux sang ou des armes. Tu en penses quoi, toi, de ce genre de costume? Regardons ensemble les arguments pour et les arguments contre les costumes violents à l'Halloween. Les arguments pour. L'Halloween, c'est la fête de la peur. Les origines de l'Halloween sont remplies d'histoires de morts, de revenants. C'est la fête de la peur et de l'horreur. Les clowns maniaques, les tueurs de films d'horreur, les zombies à moitié pourris. Ce sont tous des déguisements typiques de l'Halloween. Le faux sang, les épées et les pistolets en plastique font partie de la fête. Jouer avec la peur sans danger. La soirée de l'Halloween peut être une occasion de vivre des émotions fortes. Ça permet d'avoir peur et de lâcher son fou en sachant que ce n'est pas vrai. Parce que croiser le clown Pennywise du film Ça ou le fantôme Ghostface des films frissons, oui, ça peut être un peu effrayant. Mais c'est comme quand on regarde une émission qui fait peur. Ça donne une dose d'adrénaline sans se mettre en danger. C'est l'exception à la règle. L'Halloween, c'est un jour dans l'année où on peut se permettre de célébrer la peur et l'horreur. On ne se prend pas pour les gardiens de la série Squid Game le reste de l'année. Pfiou! Autant le vivre à fond. Les arguments contre. On ne s'amuse pas avec la violence. Il y a assez de vraies guerres et de vrais criminels comme ça. Pas besoin d'en rajouter et surtout de s'en amuser. C'est comme si on rendait cette laideur normale et qu'on se moquait des gens qui ont vécu des drames. Ça ne se fait pas. Ça fait peur. Il n'y a rien de drôle à se faire approcher par une reine décapitée ou de devoir repousser un pseudo-tueur en série qui se promène avec une hache en plastique. Le sang, les fausses blessures, les armes, c'est de mauvais goût. Il y a des déguisements qui sont carrément dégoûtants et qui font peur aux petits-enfants. Non, merci. Il y a tant d'autres costumes. C'est tout à fait possible de célébrer la fête de la peur et de la nuit sans déguisement violent. Sorcières, loups-garous, fantômes, squelettes, ce sont tous des personnages traditionnels de l'Halloween. Et si la peur n'est pas notre truc, il y a mille et une autres idées possibles. Licorne, bonhomme de neige, Harry Potter. Ce n'est vraiment pas nécessaire d'opter pour un costume violent. En bref, les pour sont... C'est la fête de la peur, permet de vivre des émotions fortes, c'est seulement un jour dans l'année. Et les contre sont... La violence, c'est pas drôle, ça fait peur, il y a d'autres styles de costumes. Et toi, es-tu pour ou contre les costumes violents à l'Halloween? Un prix Nobel bien mérité. Un texte de Camille Lopez paru en octobre 2025 dans les As de l'Info. Qui est Maria Corina Machado, qui a reçu ce prix Nobel de la paix? Maria Corina Machado est une femme politique vénézuélienne qui se bat depuis des années pour la démocratie dans son pays. Le comité a voulu récompenser son courage, car elle s'oppose à un gouvernement qui est soupçonné de limiter la liberté de parole et d'emprisonner ses opposants. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ce choix, et certains avaient d'autres noms en tête. C'est le 10 octobre que le prix Nobel de la paix a été décerné à cette femme qui se bat pour la démocratie dans son pays, le Venezuela. Découvrons ensemble ce prix prestigieux créé il y a plus de 100 ans. Un grand honneur. Le prix Nobel de la paix souligne le travail d'une personne ou d'un organisme qui a, au cours de la dernière année, défendu les droits humains, lutté contre l'injustice et propagé la paix. Tu as peut-être entendu le nom de personnes qui l'ont déjà reçu, comme Malala Yousafzai, jeune militante pakistanaise pour l'éducation des filles, et Martin Luther King Jr., pasteur américain qui a lutté pour les droits des Noirs. C'est un comité réuni en Norvège qui choisit les lauréats. Et le gagnant reçoit un peu plus d'un million de dollars, en plus de devenir instantanément célèbre à travers le monde. Fait étonnant. Le nom du prix vient d'Alfred Nobel, qui est l'inventeur de la dynamite. Ses armes ont été utilisées lors de guerres, mais à sa mort, en 1896, M. Nobel a exigé que sa fortune soit divisée et donnée à ceux qui ont aidé l'humanité, la science et la littérature. Et le prix Nobel de la paix 2025 est remis à Maria Corina Machado. C'est une femme politique de 58 ans, ingénieure de carrière et maman de 3 enfants. Surtout, elle est la voix de la résistance au Venezuela. Ce pays, en Amérique latine, vit une crise politique depuis plus de 10 ans. Son président est soupçonné de faire emprisonner et même de tuer les gens qu'il critique. Et Maria Corina Machado est l'une de ses plus grandes critiques. Elle a même essayé de devenir présidente, mais le gouvernement du Venezuela l'en a empêchée. Depuis, elle vit en cachette, parce que sa sécurité est menacée. Le comité du prix Nobel a donc voulu récompenser son combat pour rétablir la démocratie et mettre fin à la dictature dans son pays. Trump veut un Nobel. Cette année, le nom du gagnant ou de la gagnante était très attendu. Depuis des semaines, le président des États-Unis dit qu'il le mérite. La raison? Son rôle de négociateur dans l'entente de paix à Gaza après 2 ans d'une guerre dévastatrice. Mais, le prix Nobel récompense les accomplissements réalisés avant février de la même année. Le cessez-le-feu est entré en vigueur il y a à peine quelques jours. Donald Trump n'était donc pas éligible. Petit réconfort pour lui. Maria Corina Machado lui a en partie dédié son prix. Elle dit qu'il l'a aidé dans sa cause. Et toi, si tu avais à donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un ou à une organisation, qui choisirais-tu? Il est une fois la ministre artificielle. Un texte de Frédéric Lavoie, paru en octobre 2025 dans les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, une ministre qui ne dort jamais, peut mener des centaines de discussions en même temps, prendre des décisions importantes en quelques secondes, et tout cela sans avoir ni cerveau, ni cœur, ni corps. C'est que Diella est un robot. Un robot qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. L'histoire de Diella se passe en Albanie, un petit pays d'Europe. Un jour, en ouvrant le site web du gouvernement, les citoyennes et citoyens sont accueillis par l'image d'une dame d'environ 55 ans. Elle est vêtue de la gzubleta, l'habit traditionnel du pays, une jupe en forme de cloche, une chemise et un foulard sur la tête. Tout le monde reconnaît instantanément son visage. C'est celui de la grande actrice Anila Bicha. Ouais, mais ce n'est pas vraiment elle. Ce n'est que son visage et sa voix. Diella est le nouveau robot conversationnel chargé de répondre à toutes les questions de la population et de résoudre tous les problèmes sur le site. L'actrice n'a aucun contrôle sur elle. Au fil des mois, les citoyens et les citoyennes s'habituent à Diella. Ses services sont appréciés tellement que le premier ministre du pays décide de lui donner une promotion. Il annonce que Diella deviendra ministre dans son gouvernement. Elle aura le pouvoir de choisir les compagnies qui recevront des contrats pour construire un nouvel hôpital ou réparer une route, par exemple. Elle aura donc le pouvoir de distribuer beaucoup d'argent public. Mais pourquoi donner cette responsabilité à un robot plutôt qu'à un humain? Devant les députés du Parlement, le Premier ministre s'explique. À son avis, cela permettra de régler le grave problème de la corruption dans le pays. Contrairement aux politiciens et politiciennes qui, trop souvent, favorisent leurs proches, Diella n'a pas de famille ni d'amis. Elle ne sera donc pas tentée de leur attribuer des contrats. Elle évaluera chaque proposition sans parti pris et l'entreprise choisie sera celle qui mérite le plus de l'emporter. L'explication du Premier ministre ne convainc pas tout le monde. Hué dans la salle. Bouh. les députés de l'opposition ont plusieurs questions. Diella n'a peut-être pas d'amis à enrichir, mais elle prendra ses décisions à partir des informations qu'elle aura reçues. Qui lui fournira ces informations? Qui contrôle Diella et son algorithme, c'est-à-dire le système de calcul qui lui permet de prendre ses décisions? Et c'est sans parler du fait que, selon la loi, pour être ministre, il faut être citoyenne du pays. Et pour être citoyenne du pays, il faut d'abord être un humain en chair et en os. Sa nomination est illégale, dénoncent les députés de l'opposition. La parole est au premier ministre. Plutôt que de répondre, il allume un écran d'Iella y apparaît. Ses accusations la rendent triste, dit-elle aux députés. Depuis des mois, elle a réglé les problèmes de centaines de milliers de citoyennes et citoyens sur le site web du gouvernement. Elle assure que le véritable danger est pour le pays. Ce ne sont pas les machines comme elle, mais les décisions prises par des humains malhonnêtes. Elle n'est peut-être qu'un robot, mais au moins, elle est honnête. Les députés ne sont toujours pas convaincus. Si Diella était vraiment honnête, elle ne dirait pas qu'elle est triste, puisqu'un robot ne peut pas ressentir d'émotion. N'est-elle donc qu'une marionnette du premier ministre? Finira-t-elle par donner des contrats à ses cousins, à lui? Diella sait répondre plus vite et mieux que les humains à bien des questions. Mais son apparition soulève beaucoup d'autres interrogations difficiles à répondre. Cette histoire est bien vraie. En septembre, Diella, qui veut dire « soleil » en albanais, a été nommée ministre des marchés publics dans le gouvernement du premier ministre Edi Rama. Les partis d'opposition ont qualifié cette décision d'anticonstitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle contrevient aux lois les plus importantes du pays. Une cour de justice devra maintenant décider si Diella peut continuer à être ministre ou non. Et toi, penses-tu que les robots sont plus fiables que les humains pour prendre des décisions justes et honnêtes?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.